France Inter. Écrivaine, professeur de littérature, Camille Bordas vit aux États-Unis depuis 13 ans, écrit en anglais et assure elle-même les traductions françaises de ses romans, qui ont tout de même pris des libertés géographiques puisqu'ils ont été traduits dans une dizaine d'autres langues. Après avoir passé une partie de son enfance au Mexique, Camille Bordas étudie l'anthropologie et l'histoire de l'art à Paris et publie son premier roman à 22 ans sous le titre « Les 13 desserts ». Suivront « Parties communes »,« Isidore et les autres » et un recueil de nouvelles initialement paru dans le New Yorker, fait extraordinaire à propos de la vision des couleurs. Elle vient de publier la version française de son dernier roman « Des inconnus à qui parler » aux éditions de Noël, dans lequel le microcosme d'un master de stand-up à Chicago est troublé par l'arrivée d'un nouveau professeur humoriste star récemment accusé d'inconduite émotionnelle. Camille Bordas fut à la tête d'un atelier d'écriture créative à l'Université de Floride et s'est à la fois inspirée de son environnement et des années passées à Chicago pour imaginer ce drôlatique roman choral qui porte à la fois un regard tendre et ironique sur le monde contemporain et les narcissismes exacerbés. Le temps d'une journée, on entre dans la tête des étudiants et de tous les professeurs du département dans des flux de conscience affranchis des frontières temporelles et permettant de voir un bout d'humanité de l'intérieur. Un des meilleurs livres parus cette année. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Camille Bordas.
Bonsoir Eva.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé
dans la vraie vie ou dans la fiction ou...
Ce que vous voulez, mais vous en tant que Camille Bordas.
Moi en tant que Camille Bordas, comme vous l'avez dit, je vis aux États-Unis et je suis arrivée à Paris il y a 2 jours. Alors c'est vrai que je suis toujours très très heureuse d'arriver à Paris et c'est très benêt de dire ça, mais même d'arriver à Roissy, de monter dans le taxi, d'écouter Radio Nostalgie, de voir les...
Vous avez remarqué que Radio Nostalgie, maintenant, c'est les tubes de notre enfance, ce qui veut dire qu'on est très vieille.
Et en fait, avant-hier, ça allait encore parce que c'était Daniel Balavoine, mais oui, c'était Nirvana. Ouais.
Moi, c'était Balavoine quand j'étais petite, alors maintenant, parfois, j'entends...
Nirvana, Ménélique. Ça m'a fait un choc, ouais. Ouais. Ou Ménélique.
Qu'est-ce que vous avez gardé du Mexique? Vous y avez passé 3 ans, 2-3 à 6 ans?
Oui, j'y ai passé 3 ans. J'y ai gardé sans doute les meilleurs souvenirs de ma vie, dans une espèce d'insouciance que j'ai du mal à laquelle j'ai du mal à me reconnecter à l'âge adulte. Mais vraiment la beauté de la ville de Mexico, des pyramides, c'est des choses qui m'ont vraiment impressionnée quand j'avais 3-4 ans. Il me reste la langue encore un peu. Et ouais, j'ai passé espagnol au bac et on m'a dit que j'avais un fort accent mexicain. Donc je pense qu'il me reste ça aussi.
C'est un compliment. Voilà. Vous avez appris l'anglais plus tard. Vous pensez que vous l'avez appris facilement parce que vous étiez à l'école bilingue petite?
Eh ben, je pense que oui. Enfin, en fait, au Mexique, on n'était pas à l'école bilingue, mais mes frères et sœurs et moi, on était au lycée français, tout simplement. Donc, tout était en français, parce que mes parents avaient toujours l'intention de revenir en France après. Donc, c'était vraiment 2-3 ans à l'étranger. On a appris l'espagnol, par ailleurs, parce que, bon, quand on est petit, ça se passe très facilement. Et je pense que oui, que ça a dû créer des circuits dans le cerveau qui font qu'assez rapidement, si à 3 ou 4 ans, tu te rends compte que... un concept qui existe dans une langue n'existe pas dans une autre, mais que c'est quelque chose d'assez proche et d'imagé et d'aussi intéressant, voire plus. J'ai appris l'anglais en regardant des films, en fait. Donc je regardais beaucoup de films en anglais et ça s'est venu un peu tout seul, quoi. Voilà, c'est toujours fascinant pour moi de voir comment les gens expriment les mêmes choses dans des langues différentes, tout simplement. Enfin, c'est très bête, mais bon, en tant qu'enfant, ça me fascinait. Je pense que ça continue à me fasciner. Et justement, j'ai commencé à regarder des films en anglais vers 10 ans, quand je suis arrivée à Paris. D'ailleurs, j'aimais beaucoup le cinéma, mais je voyais toujours des films en VF avant. J'habitais vers Annecy, vers Lyon. On a un peu bougé en France, mais ensuite, notre père a insisté pour qu'on regarde les films en anglais. C'était une très, très bonne idée. Voilà, quand on est arrivé à Paris, on va voir les films en VO maintenant. D'accord.
Et vous avez commencé par écrire en français et vous êtes mise à écrire en anglais à partir du moment où vous vouliez faire lire ce que vous écriviez à votre mari qui est américain.
C'est ça, et qui parle vraiment pas du tout français.
Toujours pas ?
Bah, toujours pas, non. C'est vraiment...
Il charrie quand même.
Il charrie, il dit qu'il va s'y mettre, mais bon. Ah.
La 20e heure, Eva Bester, sur France Inter.
Camille Bordas, vous écriviez donc à vos débuts en français, puis vous êtes passée à l'anglais à partir du moment où les éditions Inculte, des éditions françaises, vous ont demandé de traduire vous-même un livre en français qui avait été écrit en anglais.
Oui, c'est ça. J'avais l'espoir que quelqu'un d'autre le traduirait, parce que c'était pas un exercice qui me faisait très envie de me traduire. Voilà, c'était Isidore et les autres, j'avais déjà passé 3 ans à l'écrire et à... Bon, enfin, tous les livres sont difficiles à écrire, mais bon, celui-là m'avait paru particulièrement difficile et j'avais envie de passer à autre chose, d'écrire un autre livre. Et mon éditeur chez Inculte, Jérôme Schmitt, avait beaucoup insisté pour que ce soit moi qui le fasse. Donc, je l'ai fait. Et il avait raison d'insister. Voilà, parce que du coup, je me suis permis quelques libertés. Enfin, quelque chose que l'autotraduction permet, que, voilà, que je pense à un traducteur... Un meilleur traducteur que moi, ce serait pas permis. Enfin, c'est une traduction, adaptation, même si les adaptations sont minimales, voilà, de faire sauter des mots de dialogue, parce que du coup, ça n'est pas naturel, on n'a pas besoin de cet adverbe, etc. Enfin, des toutes petites choses, mais voilà. Il a eu raison de me pousser. Voilà.
Et c'est pas trop frustrant de parfois pas pouvoir retranscrire certaines choses ?
Si, c'est frustrant, mais j'oublie immédiatement. En fait, je passe des heures à galérer sur une traduction, puis une fois que j'ai trouvé la solution, c'est pas du tout, enfin c'est un processus tellement différent de l'écriture, parce que il faut que je fasse confiance au livre tel que je l'ai écrit en anglais, et donc une fois, il y a des questions qui se posent plus, mais bon, le livre c'est ça, donc voilà, là, tu trouves la meilleure traduction et tu passes à autre chose, donc c'est très frustrant mais très bref, alors que l'écriture d'un roman c'est frustrant sur des années.
Vladimir Nabokov, quelle est votre langue préférée ? Est-ce que c'est le russe, l'anglais ou le français ?
La langue de mes aïeux est encore celle où je me sens parfaitement chez moi. Mais je ne regretterai jamais ma métamorphose américaine. Le français, ou plutôt mon français, qui est quelque chose de très spécial, ne se plie pas si bien au supplice de mon imagination. Sa syntaxe me défend certaines libertés que je prends naturellement avec les deux autres langues. Il va de soi que j'adore le russe, mais l'anglais le surpasse comme instrument de travail.
Ah oui ?
Il le surpasse en richesse de nuances, en prose délirante et en précision politique.
Vladimir Nabokov dans Apostrophe de Bernard Pivot en 75. Il y a plein d'auteurs qui ont écrit dans une autre langue que la leur. Joseph Conrad, Samuel Beckett, Eugène Ionesco, Milan Kundera, Tik Raimi et vous, Camille Bordas. Est-ce que vous avez autant de vocabulaire en anglais qu'en français ?
J'en ai un peu moins quand même, mais ça fait 13 ans que je vis là-bas, donc il se renforce au fil des ans, au fil des jours d'ailleurs, même j'en apprends presque tous les jours.
Pourquoi écrivez-vous en anglais d'abord ? Pourquoi pas en français d'abord pour vous traduire ensuite en anglais ?
Eh bien, c'est peut-être, cette archive, elle est géniale, d'ailleurs, j'ai jamais entendu. Mais bon, il y a cette chose déjà que Nabokov dit qui est mon français, qui est une chose très particulière, et mon anglais, c'est mon anglais, et il y a quelque chose de presque, je dirais pas égoïste, mais j'aime bien le voir grandir, j'aime bien le voir... s'améliorer, j'aime bien... Voilà, il y a quelque chose... Oui, je devrais pas dire que c'est égoïste d'ailleurs, mais c'est un plaisir, c'est un plaisir d'écrire en anglais pour moi. Il y a quelque chose de l'ordre de ce que Nabokov disait aussi, de la précision. Parfois, j'ai l'impression que l'anglais arrive à être plus précis, plus malléable. Et puis bon, mais il y a sans doute des raisons psychanalytiques aussi que je n'explorerai peut-être pas. À ce micro, je trouve que le français est magnifique, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses. Au moment où j'écris mon premier livre en anglais, je me suis rendu compte que j'allais un peu plus droite au but de, voilà, qu'est-ce que veut dire cette scène, qu'est-ce que les personnages essayent de se dire l'un à l'autre. C'était plus facile d'aller vers l'anglais où j'avais moins de possibilités de vocabulaire, de me dire bon, bah, qu'est-ce qui est vraiment au cœur de cette scène-là, plutôt que de me regarder écrire. Je ne sais pas si je me regarde jamais écrire, parce que je suis un peu trop psychorigide pour ça, mais voilà, il y a une chose que, voilà, je peux... À mes débuts en anglais, c'était vraiment un travail. C'était vraiment un travail, et j'aime bien me sentir au travail.
Vous avez vécu à Chicago, puis ensuite en Floride. Je crois que vous êtes retournée depuis à Chicago. Quelles sont les différences majeures ?
Entre Chicago et la Floride ?
Ouais, culturellement.
C'est surtout climatiquement, je veux dire, moi je déteste quand il fait trop chaud.
Moins de crocodiles
à Chicago. Moins de crocodiles, moins de bêtes. Il y a toujours des petites bêtes qui rentraient dans la maison en Floride et elles ont bien raison d'ailleurs, elles étaient là avant nous, etc. La Floride, je me suis beaucoup demandé pourquoi les gens s'étaient installés là. C'est quand même très hostile à l'humain, quoi. Enfin, parce que moi j'aime pas la chaleur, mais c'est invivable, même pour des gens, voilà, qui sont moins... anti-chaleur que moi. Chicago, il fait très froid, j'aime beaucoup l'hiver. Il y a plus de culture, plus de librairies, plus de musées. C'est très bateau de dire ça, mais...
C'est
ça,
une ville littéraire ?
Ça me correspond. Ouais, c'est une ville littéraire quand même, avec une histoire littéraire aussi, moi, qui m'intéresse beaucoup. Ouais.
Vous sentez un écrivain plutôt européen ou américain, ou un mélange des deux ?
En tant qu'écrivain, peut-être, je me définis peut-être plus comme proche de la sensibilité américaine. Je suis plus dans le... Oui, enfin, le livre, les romans, c'est fait pour réfléchir, mais aussi pour s'amuser, pour s'échapper, etc. C'est pas que de l'intellect. Moi, je suis pour le mariage de l'intellect et du plaisir.
Du divertissement.
Du divertissement, voilà, pendant lequel on réfléchit aussi et on pleure éventuellement, etc. Mais c'est vrai que je suis pas du tout dans... Voilà, le roman intellectuel, ça me barbe pas, mais je pourrais pas en écrire un. Voilà,
pourtant, si je prends une expression un peu prosaïque, on se prend la tête dans vos livres.
Oui. Ça, c'est encore autre chose.
Ouais, c'est vraiment des romans d'introspection.
C'est des romans d'introspection. Tout le monde a plein de choses.
Se demande comment c'est perçu, comment est-ce qu'on pense à eux.
Oui. Les personnages ne vont pas bien.
Non, jamais. On ne peut pas faire de la bonne littérature.
Non, mais il faut que ce soit drôle quand même.
Oui. Votre premier livre, c'était Les 13 desserts. C'était l'histoire d'une fille qui promettait à son père, sur son lit de mort, d'avoir une belle vie. Alors, bien qu'il ne s'agisse pas de vous, vous y efforcez-vous d'avoir une belle vie?
J'aimerais bien. Je ne sais pas si je m'y efforce, mais c'est marrant, en grandissant, mais en vieillissant, de se rendre compte des choix qu'on a faits et qui n'étaient pas si bêtes que ça au final, alors que en ce qui me concerne, c'est une personne de 18 ans qui les a faites, commencer à écrire un roman comme ça, c'était complètement stupide comme idée, et de voir que 20 ans plus tard, je continue à écrire et que c'était pas si bête que ça de me lancer quand j'avais 18 ans. Après, la belle vie, on n'est pas les seuls maîtres du chemin qu'elle prendra, mais c'est vrai que moi j'essaye un peu de... C'est difficile, mais de se rendre compte de la chance qu'on a, etc., etc., d'être...
Dans la gratitude.
Ouais. Mais je ne sais pas ce que c'est qu'une une belle vie, au final, mais ouais, j'essaye.
Vous avez publié en 2017 How to Behave in a Crowd, qu'on pourrait traduire par Comment se comporter dans la foule, mais qui est devenu en français, sous votre plume, Isidore et les autres.
Oui.
Et à ce moment-là, Zadie Smith a dit que vous étiez la fille spirituelle de Salinger. Qu'est-ce que ça vous a fait ?
Eh bien, c'était assez étrange, parce que j'avais lu La Trappe-cœur quand j'étais jeune, mais j'avais jamais lu autre chose de Salinger. Et donc elle l'a dit, ensuite, je sais pas si c'est parce qu'elle l'a dit que d'autres gens l'ont repris, mais du coup, après, dans toutes les critiques du livre, c'était « Ah oui, il y a du Salinger dans cette romancière ». Et donc, j'ai lu tout Salinger, et bon, j'ai vraiment adoré, mais voilà, je sais pas dans quelle mesure on peut dire que mon écriture lui ressemble. Je pense que c'est surtout que c'était une histoire de famille et que voilà, ils se sont dit voilà, il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont tous très très intelligents, donc ça ressemble à la famille Glass chez Salinger. Mais je sais pas si dans le style on peut dire malheureusement que je lui ressemble énormément. Mais c'est vrai que du coup, moi ça me flatte beaucoup, mais à l'époque ça me flattait moins parce que j'étais pas sûre de savoir ce que ça voulait dire. Vraiment, j'en suis assez contente.
Le narrateur, c'est donc Isidore, qui est très sensible dans une famille de surdoués, qui aime bien se moquer des autres. La famille, pas lui. Mm-hmm. Et vous avez pas mal de points communs avec Isidore. Et dans une interview à l'occasion de la sortie, vous avez confié que vous passiez beaucoup de temps à lire, petite, ou à rédiger des énigmes et des blagues que vous vendiez ensuite 2 francs.
Oui.
À vos parents ou à vos amis? Vous aviez déjà un sens du commerce incroyable.
Bah en fait, je les vendais
personne
pas à
mes
amis. Personne les achetait, donc ça n'a pas... Enfin, peut-être que si, quand même. Mais j'y passais beaucoup de temps. Il y avait aussi des mots croisés, il y avait voilà, des BD. Je faisais tout un... Enfin, je faisais mon propre magazine. Et ensuite, je le vendais. Voilà, je faisais pas des photocopies, je faisais 6 exemplaires. On était 6 dans ma famille et j'essayais de les vendre. Mais non, pas à mes amis.
Vous recopiez
Je recopiais 6 fois, ouais. Oh
Wow, alors là, je suis vraiment épatée.
Et donc, je pense que ma mère devait les acheter, je pense, quand même.
Ouais, j'espère.
Mais mes sœurs, je crois que...
D'accord. Comment vous en êtes venue à être publiée dans le New Yorker ?
Alors, donc j'avais fini Isidore et les autres dans sa version anglaise, dont je ne dirai pas le titre à ce micro, vous l'avez très bien dit. Et donc, aux États-Unis, tout se passe par le biais des agents. Et donc, j'avais une agente qui essayait de vendre un extrait du livre au New Yorker, parce que le New Yorker, de temps en temps, publie des extraits de romans. Et un des éditeurs de la fiction a dit « Ah, on aime beaucoup le livre, mais on fait quand même rarement des extraits. Si cette personne a des nouvelles... à nous proposer, ça nous intéresserait de les lire. » Et il se trouve que j'étais en train d'écrire ma première nouvelle, donc je leur ai envoyé, j'ai attendu peut-être, il m'a encore fallu 3-4 mois pour la finir, et je leur ai envoyé, donc c'était ma première nouvelle. Et ouais, ils l'ont accepté, et c'est très très bête à dire, mais c'était vraiment un des plus beaux jours de ma vie.
Ouais, je peux comprendre. On va parler de stand-up ce soir, oui. Puisque vous publiez la version française donc, de votre dernier livre, Des Inconnus à qui parler, aux éditions de Noël. Et en fait, ce que j'ai appris avec un peu d'étonnement, c'est que vous regardez parfois du stand-up en vidéo, mais vous n'êtes jamais allé en voir parce que vous avez trop d'empathie et ça vous mettrait très mal à l'aise pour les gens sur scène.
Je pense, ouais. Enfin, depuis, en fait, je suis allée voir du stand-up, mais c'était pas... Je ne nommerai ni le lieu... c'était du stand-up amateur que j'ai fini par voir parce que voilà, j'ai des copains qui y allaient. Donc j'y suis allée depuis et c'est vrai qu'il y a un côté empathique. Je pense que je me forcerai à rire même quand c'est pas drôle. Et j'aime pas la personne. Ouais, en fait, je sais pas, je devrais aller voir un stand-up que j'aime beaucoup et voir ce qui se passe. Mais c'est hyper cher aussi. Hein. J'ai regardé les
ouais,
prix. Parce que je voyais là en ce moment, je suis en Caroline du Nord. À Durham, et il y avait Jerry Seinfeld qui venait, et je me dis, oh bah j'irai voir Jerry Seinfeld peut-être. Et c'était $800 la place.
Ah waouh!
Je n'irai pas voir Jerry Seinfeld.
Ah oui, j'ai eu la même chose pour Dave Chappelle à Paris, oui. Mais c'était pas 800, c'était 200 ou quelque chose comme ouais. Ça, et je me suis dit, bah non, c'est pas possible.
Non, non, moi je pensais que c'était comme, enfin, pas comme un billet de cinéma, mais je vois, bah oui, ça doit être $30. Oui. Je vais payer $30, je vais aller voir Jerry Seinfeld.
Ça coûte $30 un billet de cinéma aux États-Unis?
Non, non, mais je mets un peu plus qu'un billet de cinéma, je pensais. Et là, $800, je suis bon, bah, tant pis, on va regarder Seinfeld à la télé.
Bon, on voit mieux parfois. Oh. Comment est-ce qu'on passe de The Material à Des Inconnus à qui parler dans un titre? Et comment est-ce qu'on décide qu'un élève du roman tutoie sa professeure en français?
Ah, alors ça, c'est une vraie... Ouais, je me souvenais plus du passage au tutoiement.
C'est Artie qui tutoie oui, Dorothy, oui, oui. Sa professeure.
Oui, oui, oui. Je pense que je me suis vraiment posé la question sur ce coup-là, mais c'est vrai que... Oui, bah oui, donc en anglais, il n'y a pas de distinction entre le tu et le vous. Et moi, étant professeur aussi, mais bon, d'écriture avec des étudiants un peu de cet âge-là, 22, 24 ans, on est dans une relation qui est prof-élève, mais aussi collègue presque. Et donc, bon, bah, la question ne se pose pas avec mes étudiants, mais parfois on se retrouve au bar après les cours et je me dis, bon, bah, en fait, ils ne me vouvoieraient pas dans ce contexte. Je le sais, je le sens. Et donc, je me dis, bon, bah, Artie ne vouvoierait pas cette prof de stand-up qui le regarde s'humilier sur scène depuis 6 mois. Voilà, ils sont passés à autre chose, ils sont passés au-dessus. Et l'autre question, je ne sais plus.
Non, c'était sur le titre.
Ah, sur le titre, oui. Bah, en fait,
c'est comme pour
titres,
Isidore.
C'est une, oui, ouais. C'est une torture, les titres. Mais oui, je pense que je voulais le traduire tout simplement par la matière ou quelque chose de très simple comme ça.
Mais ça ne sonne pas pareil en français.
Ça
ne
sonne pas
ouais.
Pareil.
Ouais.
Et puis voilà. Et ensuite, oui, il y a un moment vers la fin, vers le milieu du livre où il y a cette phrase où Dorothy, un des personnages principaux, parle de sa carrière d'humoriste comme une espèce de quête d'inconnu à qui parler. Et donc, je me dis, ah, c'est pas mal, ça sonne bien. Et puis, mon éditrice était d'accord.
Mais justement, à un moment, Dorothy a cette réflexion. Donc, c'est l'une des professeurs du département de stand-up à Chicago. Qu'en fait, on parle plus trop aux gens de sa famille et qu'on préfère parler à des inconnus, que c'est plus facile de parler à des inconnus.
Ouais.
Mais moi, je l'ai compris autrement. C'est que les gens qui font du stand-up, finalement, ils racontent ce qu'on raconterait à nos amis.
Oui.
Mais en plus, nous, on les paye pour qu'ils nous le racontent et on ne peut pas répondre.
Ouais. Et on les paye très cher.
Bah oui. Non, mais
ouais.
C'est quand même particulier.
Oui, c'est particulier, mais on ne peut pas répondre au livre non plus.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Mais de fait, j'ai pas vu de spectacle de stand-up en direct, mais il y a beaucoup de gens qui, même dans le stand-up filmé, qui essayent de répondre aux
ouais,
comiques sur scène.
Un peu trop,
ouais, un peu trop, ouais.
Donc c'est la fin du premier semestre pour les étudiants du master de stand-up de Chicago qui vont se produire le soir même, puisque le roman est assez volumineux, mais pourtant il traverse une durée de 24 heures, vont se produire au Comedy Club à l'Empty Bottle contre une troupe d'improvisation sous les yeux de leur professeur. L'idée vous est venue de votre atelier d'écriture créative que vous dirigez à l'Université de Floride, de Chicago aussi. Deux questions évidemment, peut-on apprendre à écrire? Peut-on apprendre à faire rire?
Alors, apprendre à faire rire, j'ai jamais été confrontée à ça. Moi-même, étant la petite sœur de gens très drôles et étant moins drôle qu'eux, je vois qu'il ne suffit pas d'être au contact.
Ils doivent être très drôles, alors.
C'est gentil. Et par contre, pour l'écriture, c'est vrai que moi, j'étais assez... j'étais pas du tout cynique, mais j'ai pas étudié l'écriture, moi. Donc, j'arrive à l'Université de Floride, on me dit, bon, bah, il faut 6 étudiants cette année qui veulent apprendre à écrire des romans. Je sais pas quoi leur dire. Et c'est vrai qu'en fait, je pense qu'apprendre à écrire, c'est difficile. Il faut arriver avec quand même déjà l'envie et un peu de talent. Mais je pense qu'il est possible de leur faire gagner beaucoup de temps, de leur montrer des espèces de routes qui n'est pas la peine de prendre, que c'est pas la peine de prendre. Et surtout, je pense que quelque chose qui est important, c'est de leur montrer là où ils sont bons. Et je pense que c'est quelque chose quand on écrit, comme c'était mon cas quand j'avais 18, 19, 20 ans, et qu'on ne montre pas son travail, on est seul dans sa chambre avec son petit manuscrit. Je pense que c'est bien d'avoir le regard critique des autres, et de leur dire, là t'es bien, là t'es moins bien, peut-être concentre-toi sur tes points forts, parce que t'es pas obligé de décrire la pièce dans laquelle sont tes personnages. Si tu sais pas faire une description, tu peux faire sans. Voilà.
Est-ce que vous auriez un livre à recommander sur l'écriture ? Il y en a tant, mais...
Il y en a qu'un que j'aime, qui est un livre, je sais pas s'il est paru en français, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement connu aux États-Unis, George Saunders, qui est un nouvelliste, un super écrivain, et qui lui a écrit un de ses livres sur l'écriture et comment on fait pour aller d'une idée initiale qui a l'air un peu neuneux et pour arriver à... Et ça s'appelle... Il fait ça par le biais de nouvelles russes. Il fait lire 5 nouvelles russes. Donc les nouvelles russes sont incluses dans le livre et lui, il les décortique petit à petit. Et ça s'appelle en anglais « A Swim in the Pond in the Rain ». Alors,
on trouvera.
Voilà,
ouais.
On pourrait le mettre en lien.
Oui, on pourrait le mettre sur le site internet.
Et il a aussi un Substack, comme on dit, je ne sais pas.
Oui, voilà, un Substack, c'est une newsletter à laquelle
newsletter
on peut s'abonner.
Où il parle d'écriture tout le temps, et c'est vraiment quelqu'un de presque magique, cet homme-là. Il parle très bien de ce qu'il fait, lui, depuis 40 ans, et c'est un de mes écrivains préférés, et qui parle bien de ce qu'il fait, donc c'est très rare.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Camille Bordas, on parle avec vous de votre roman Des Inconnus à qui parler. Vous dites dans une interview que l'humour est un véhicule très important aux États-Unis où vous vivez et qu'en fait les gens s'informent plus par l'humour que par les journaux télévisés.
Oui, que par les journaux télévisés, que par les journaux tout court, que par la radio. Oui, c'est l'infotainment, c'est tous les talk shows, c'est toujours les nouvelles du monde un peu décalées. Voilà, on va présenter c'est spécial.
Est-ce que vous avez usé de documentation pour écrire ce roman ? Est-ce que vous avez rencontré des stand-uppers ? Est-ce que vous en avez vu plus ?
Non, j'en ai peut-être regardé un peu plus et j'ai lu une histoire du stand-up, mais je pense que j'en ai pas tiré grand-chose au final. Je voulais juste plutôt m'assurer que je disais pas de bêtises historiquement sur cet aspect par exemple où les comiques, les stand-up, je pense que ça s'appelait pas le stand-up encore à l'époque, mais les gens qui se produisaient sur scène et qui racontaient des blagues, une fois qu'ils atteignaient l'âge de la retraite, pouvaient revendre leurs blagues aux jeunes comiques, parce que tout le monde les avait pas entendus.
Ça, je l'ai appris grâce à vous.
Voilà, c'est des petites choses comme ça un peu marrantes. Mais je suis pas une fan de recherche. En général, quand j'écris un roman, j'essaie de voir où le roman veut aller. C'est vraiment si j'ai besoin de savoir un truc, je vais le rechercher, mais j'ai peur après de tomber dans un puits sans fond où je vais d'une connaissance à une autre et mon roman grandit pas, mais ou va dans une mauvaise direction parce que j'ai appris un truc idiot qui m'a amené sur un autre terrain.
Est-ce que vous riez facilement ?
Oui, je vous l'entendais. Enfin, je dis pas
non,
que vous
pas
voilà,
tant que ça, non.
Vous êtes drôle donc je ris, mais parfois même
c'est
quand
gentil.
Les gens sont pas drôles, j'ai un petit rire nerveux comme ça. Comme ça tout le monde peut entendre et on pourra aller. Mais oui, j'ai un peu le rire nerveux, ouais. C'est pour ça que, comme je disais, j'irai dans des comédie clubs et si c'est pas drôle, je rirai très fort.
Qu'est-ce qui vous fait rire alors hors comédie club ? Par exemple, en littérature, parce que vous êtes drôle en écriture et c'est pas facile d'être drôle en écriture.
Oui, mais en fait, tout ce que j'aime me fait rire à un moment ou à un autre. Même si c'est juste une blague sur 600 pages, ça vaut comme roman drôle en ce qui me concerne. Moi, Philippe Roth me fait rire. Il y a plein de gens, George Saunders dont je viens de parler me fait rire, une nouvelliste je pense que du coup personne connaît parce que personne ne lit de nouvelles en France, mais Rebecca Curtis, elle me fait mourir de rire. Il y a plein de gens, mais tout ce que j'aime me fait rire en fait, à un moment ou à un autre, les films, les frères Cohen, tout ça me fait un truc un peu absurde où les gens se couvrent de ridicule, souvent.
Alors justement, parlant de ridicule, est-ce que vous utilisez la honte pour écrire, puisque l'un de vos personnages principaux, le professeur Manny Reinhardt, c'est vraiment au cœur de son processus créatif. Je vais parler de lui un peu plus en détail tout à l'heure, mais vous utilisez la honte ?
Oh, je pense, oui. Enfin, j'ai pas conscience de l'utiliser, mais comme j'ai honte à peu près 80% du temps, je pense que ça fait un peu... ça fait son chemin. Je pense que chaque livre... Et en plus, je rajoute de la honte à la honte. Chaque livre est une honte. Chaque phrase que je commets est une honte. Et donc
c'est
après,
vrai
faut. Enfin oui, c'est pas. Je me soigne pas. Non, je pense c'est comme ça que je travaille. Je pense que
quand vous relisez, c'est douloureux.
Quand je me relis, c'est douloureux. Parfois, c'est. Mais bon, parfois ça passe. Et je me dis bon bah on continue. Oui. Je me sers de la honte, on va dire. Je suis obligée. On est obligé de faire avec. Ce qu'on nous a donné.
Oui, c'est sage. Alors, vous vous emparez de sujets qui sont dans l'air du temps avec une grande finesse. Donc, Manny Reinhardt, c'est un nouveau professeur humoriste star qui traîne quelques casseroles. Il est accusé d'inconduite émotionnelle puisqu'il aurait proposé à des femmes de les épouser après avoir couché avec elles, puis aurait disparu. Puis, il aurait aussi accessoirement frappé un collègue qui, peut-être, le méritait, mais ça, nous verrons bien en le lisant. Et évidemment, sa venue au sein de ce master crée quelques troubles. Il y a une association d'étudiants qui s'oppose à sa venue. Il y en a d'autres qui le défendent en disant qu'aucune plainte n'a été déposée contre lui, que faire un procès à quelqu'un, on peut, mais quand on le trouve juste un peu dégueulasse, c'est pas illégal. Enfin, ça, est-ce que vous aviez peur un peu de vous emparer de ces sujets qui sont justement... les sujets du moment, c'est-à-dire qu'on peut, il y a que des coups à prendre.
Oui, j'avais peur et enfin oui, je me suis demandé pourquoi je me lançais là-dedans aussi. C'est vrai qu'il y a que des coups à prendre et mais en même temps, c'est vraiment un sujet de société, tout le monde en parle et particulièrement à l'université, particulièrement aux États-Unis, au moment où j'écrivais le livre, en tout cas, ça me paraissait étrange de pas du tout parler de ça. Mais bon, de fait, j'ai pas voulu en faire un salopard. C'est quelqu'un d'un peu dégueulasse, on va dire.
Bien sûr, c'est pas illégal,
oui. Oui, c'est et voilà.
Puis on sait pas exactement ce qu'il a fait.
On sait pas exactement ce qu'il a fait, mais c'est vrai qu'il y a, voilà, on a tous, je crois qu'on a tous nos opinions par rapport à ça. On a tous nos limites par rapport à ce qu'on accepte de regarder, ce qu'on pardonne, ce qu'on excuse, mais on finit par toujours excuser les gens dont on aime le travail, et il y a un côté un peu, hypocrite à ça, parce que voilà, comme j'aime son travail, je vais continuer à regarder, et puis lui, par contre, il a fait une saloperie, je veux plus jamais en entendre parler, voilà.
Mais alors, il y a quand même des passages très drôles qui traitent de ce thème. Par exemple, un moment entre deux professeurs, donc je lis l'extrait. Le regard de Sword croisa celui de Dorothy Michaels et il se demanda s'il devait maintenir le contact visuel au risque de donner l'impression d'être un prédateur ou le rompre au risque de passer pour le type d'homme effrayé par les femmes. Donc on voit qu'on ne peut pas s'en sortir.
Oui.
Et puis il y a un des élèves qui est Phil, qui est un peu une caricature de ce qu'on appellerait un woke, alors qu'en fait on devrait tous l'être si on est un tant soit peu humain, mais pas dans ses dérives. Et il écoute une autre élève et vous écrivez ceci, Camille Bordas. Il n'était pas complètement d'accord avec Olivia, mais afin de réparer des siècles d'injustice envers les femmes, il avait décidé de ne plus jamais en contredire une. Il ne semblait pas avoir encore remarqué que depuis cette décision, les femmes de son entourage n'étaient plus guère intéressées par sa conversation. Oui. Et c'est vrai que Phil est un des moins drôles, car trop moral.
Trop moral, oui. On peut pas être drôle si on a un message à faire passer. Moi, c'est un peu ce que l'impression que j'ai.
La littérature, c'est pareil, la moralité n'a pas sa place.
Les personnages peuvent avoir leur moralité, mais moi, en tant que romancière, j'ai pas de leçons à donner à qui que ce soit. J'aime bien exposer les problèmes.
Mais vous interdisez des choses, parfois vous vous dites non, là, c'est trop risqué.
Pas encore.
Ah, c'est
pas
bien.
Encore. Mais bon, c'est vrai que c'est une peur qui existe, mais comme je fais pas de plan, comme je sais jamais où vont mes romans, je me suis pas encore interdit quoi que ce soit, mais il est pas. Ça pourrait arriver. Mais c'est vrai que le truc de Phil, là, des garçons qui osent plus trop contredire les filles, c'est quelque chose un peu que je ressens, moi, dans ma vie aux États-Unis avec mes collègues hommes. J'ai l'impression que quoi que je dise, en fait, ce sera génial. Donc, c'est un peu fatigant, quoi.
Vous avez essayé d'en parler ?
Pardon ?
Vous avez essayé d'en parler avec eux ?
Non.
C'est vrai ?
Non. Enfin, oui, c'est vrai, mais non, je n'ai pas essayé d'en parler.
Et vous ne voulez pas essayer ? Ce serait drôle de voir comment
il réagirait. On a qu'une vie, précisément.
Alors, il y a plein de parallèles qu'on peut faire entre le stand-up et l'écriture, puisqu'il y a quand même une histoire de musicalité, de rythme.
Oui.
Artie, c'est l'un des élèves, il est trop mignon pour être drôle. Et lui, il songe que le monde est trop plein de références et qu'aucune de ses idées ne sera jamais perçue comme originale, tandis que les professeurs, eux, voient des élèves dont ils pensent qu'ils pensent avoir inventé la poudre.
Ouais.
En littérature, c'est pareil, on peut se dire tout a été écrit.
Oui, absolument. Oui, c'est des choses auxquelles il ne faut pas penser ou pas trop y penser et se dire on peut les dire de façon un peu nouvelle ou tout le monde n'a pas tout lu, donc voilà, c'est peut-être l'occasion pour quelqu'un qui n'a lu que une quinzaine de livres dans sa vie. Je pense que mon livre, je connais des gens qui ne sont pas des grands lecteurs qui l'ont beaucoup aimé. Voilà, Après, moi, j'ai lu énormément. Je passe ma vie à lire. C'est mon activité préférée dans la vie. Mais il faut aussi savoir que voilà, je suis très consciente du fait que la plupart des gens ne lisent que voilà, une dizaine de livres dans l'année, peut-être.
Chez vos élèves, vous le ressentez aussi?
Oui, je le ressens. Donc, tout le monde n'a pas tout lu. Donc, même si tout a déjà été dit, on peut le reformuler un peu. Et puis, espérer que le livre trouvera son public ou quelqu'un qui l'aimera.
Alors, vous dites que vous ne faites pas de plan. Comment avez-vous fait pour la structure de ce livre? Parce que ça se passe sur 24 heures et on est dans la vie intérieure d'absolument tous les personnages. Tout le monde a un problème, un frère toxicomane, une jumelle avec laquelle on a des rapports ambivalents, un problème d'inceste dans l'enfance. Voilà, je n'en dis pas plus, mais je m'étais dit quand même qu'il y avait une structure, que vous l'aviez construit, ce livre.
Non, il n'y a pas du tout de structure. Bon, en fait... La première page du livre, la première page que j'ai écrite, et en fait, dès que j'ai écrit cette page, il y avait déjà plein de décisions que le livre avait prises. Déjà. Enfin, ça fait toujours très New Age de dire ça. Voilà. Le livre décide d'où il va, mais c'est un peu vrai, quoi. Il y a des choses qui m'intéressent. J'essaie d'explorer un peu par quel biais je vais en parler. Et en fait, dès la première page, c'est déjà un roman choral presque, dès la première page. Donc, il va y avoir plusieurs pages. On va aller de cerveau en cerveau. Et après, comme ça, en allant page après page, je me suis rendu compte que le temps passait très, très lentement dans le livre. Donc, je me dis, le livre, encore une fois, semble vouloir décider de prendre son temps et de se passer sur... C'est même pas 24 heures, je crois que c'est une après-midi ou une grosse après-midi, quoi. Et donc, le livre décide un peu. Voilà, on va se concentrer sur Dorothy, on va apprendre certaines choses sur Dorothy qu'on peut après... on peut pas faire semblant de pas les avoir apprises. Donc le livre, il faut qu'il adresse... il faut qu'il adresse certains problèmes qu'il a déjà posés et qu'il les résolve dans une certaine mesure. Donc oui, pas de plan, mais au fil de mes personnages, le livre décide un peu d'où ils vont. Et à la fin, au final, normalement, il y a une structure qui a émergé.
Et des spectres, ce qu'on appelle des spectres pour chacun des personnages, tout de même, vous connaissez leur passé en détail?
Eh bien, je ne le connais pas jusqu'au moment où je l'écris, en fait.
Ah, waouh. Ouais. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous lire la première page? Je suis très impressionnée.
Alors, la première page. Est-ce que j'arrive encore à voir? J'ai des très mauvais yeux. Le mercredi, ils étaient trois à monter sur scène à tour de rôle pour présenter un sketch de 4 à 6 minutes. Sketch que toute la classe décortiquait par la suite, blague après blague, syllabe après syllabe, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à sauver, jusqu'à ce que les comiques en herbe rentrent chez eux dépités, prêts à considérer une reconversion. Après un petit tour sur Internet et quelques clics sur les offres d'emploi disponibles, ils voyaient pourtant poindre à l'horizon une blague à sortir au cours suivant. Une blague qui ferait un tabac et jouerait sur leur débâcle de la fois d'avant. Leur échec à faire rire les avait amenés à envisager une réorientation en plomberie ou en psycho, mais ils avaient compris qu'ils seraient mauvais à ça aussi. Blague, blague, blague. Et ce serait une telle mise en abîme, tellement plein d'autodérision, que leurs camarades seraient bien obligés de rire, et c'est ainsi qu'ils s'y remettaient à écrire. Sauf qu'évidemment, au cours suivant, ils se rendaient compte que les autres avaient eu la même idée du sketch modeste, du sketch excuse, et leur propre critique en était impitoyable. C'est un peu surfait cette attitude, non? Bon qu'à faire des blagues.
Camille Bordas, on entend votre choix musical, qu'est-ce que c'est ?
C'est Keith Jarrett, le concert de Cologne, je crois que c'est de 1975. La troisième partie, la dernière partie. Ouais.
Partie 2C.
Oui, partie 2C, mais il y a partie 2A, 2B, 2C. Donc c'est la quatrième, le quatrième mouvement.
N'aggravez pas votre cas. Un petit mot sur ce choix musical.
Oui, alors je pense qu'au moment où vous m'avez demandé un choix musical, j'étais en train de l'écouter et c'est vrai que... Et après coup, je me suis dit, c'est pas idiot comme choix. Parce que oui, c'est quelque chose moi qui me... j'adore tout l'album, tout le concert et c'est un album que j'écoute en intégralité depuis que je suis ado. Y a très peu d'albums que j'écoute en intégralité.
Vous écrivez en musique ?
Non, pas du tout. Mais avec cet album... je pense que je pourrais écrire avec cet album en fond sonore. S'il n'y a pas de paroles, je pense que je pourrais. Je pourrais essayer d'ailleurs. Mais oui, c'est Keith Jarrett et ce concert. Moi, quand on m'a dit oui, c'est un concert complètement improvisé de A à Z... Moi, j'ai pas compris comment c'était possible. En même temps, je viens un peu de dire ça avec l'écriture, que j'ai pas de plan, que je sais pas où je vais, etc. Mais il y a beaucoup de garde-fous entre le moment où j'écris et le moment où quelqu'un d'autre le voit. Et là, il est sur scène en train d'improviser complètement devant des milliers de personnes. Un truc que je trouve magnifique en plus, qui a un petit côté. C'est presque pop, cet album. C'est bizarre, c'est du jazz, mais ça rentre dans la tête avec des mélodies qui sont très très prenantes. Et j'écoute ça assez souvent, ouais.
Who are we? Are we intrinsically good or evil? This is the struggle. And I struggle with it all the time. Where are we going? What stories do we want to tell? I knew I could express myself with pictures. But I had to find my own way.
Une bande-annonce très américaine. C'est le documentaire sur Martin Scorsese que vous avez choisi comme découverte pour les auditeurs, Camille Bordas.
Oui, j'aurais pu répondre ça à ce qui m'a enthousiasmée récemment. Oui, c'est un documentaire que j'ai adoré. J'adore Martin Scorsese déjà pour commencer, mais souvent les documentaires sont un peu décevants. Et là, non seulement j'ai appris plein de choses, mais j'ai une admiration renouvelée pour cet homme vraiment qui a travaillé très très dur pour faire beaucoup de mes films, certains de mes films préférés. Et surtout, beaucoup d'admiration pour Robert De Niro. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire du coup, mais je pense que je me dis souvent que les acteurs sont seulement des interprètes, etc. etc. mais il a vraiment joué un rôle décisif dans la création de certains films. Et c'est des choses que j'ignorais et j'aime bien voir... des artistes collaborer ensemble et faire des trucs géniaux. C'est vrai que je pense parce que je travaille seule tout le temps. Et donc voilà, de voir des belles amitiés, des beaux projets se monter.
Vous pourriez envisager une collaboration ?
Pas dans l'écriture, je pense. Mais je voulais faire du cinéma quand j'étais plus jeune et c'est quelque chose... je peux pas maintenant, j'ai pas du tout suivi cette carrière. Mais je l'envisageais un moment. J'envisageais un moment de travailler sur les plateaux de cinéma et ça m'intéressait pas mal, ouais.
Vous pourriez écrire comme scénariste, vous pourriez écrire pour le théâtre, pour un illustrateur.
C'est vrai, appel est lancé.
Appel à toutes les unités. Je reviens à votre roman Des Inconnus à qui parler. Est-ce que vous pensez que les gens qui font du stand-up ont besoin de plus d'attention que les autres ? La question est soulevée à un moment dans le livre, hein. C'est pour ça que je pose la question.
Je pense pas, mais en même temps, ouais, comme on dit, je ne connais aucune personne qui fasse du stand-up. Donc non, je pense pas qu'ils aient besoin de plus d'attention, mais...
Il y a une mise en scène de soi permanente. Ouais. Je pense par exemple à quand une des élèves, Olivia, se dit qu'elle pourrait tomber amoureuse d'un autre élève, Artie, mais de façon post-mortem uniquement, parce qu'il y a peut-être une fusillade en cours sur le campus.
Mais je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui se mettent en scène. Beaucoup de gens se mettent en scène et pas forcément littéralement en montant sur scène. Mais je ne sais pas si les comiques de stand-up ont plus besoin de ça, parce que c'est quand même tout un travail qu'ils font, et c'est un peu ça qui m'intéresse aussi dans le livre, c'est que je pense que, même si moi j'aurais jamais le courage de monter sur scène et de faire une chose pareille, il y a beaucoup de points communs entre l'écriture de roman et l'écriture de stand-up. Je pense que, comme vous disiez, ça, c'est quand même des gens qui passent des heures à écrire seuls chez eux, à mon avis, à ciseler, à couper des syllabes, à reformuler en permanence, donc je pense que c'est une mise en scène, mais c'est une fausse mise en scène. C'est tellement travaillé que c'est... Oui, c'est un job, quoi.
C'est un job, mais il y a tout de même une réflexion de Dorothy, donc la professeure, qui l'idée que tout dans sa vie pouvait devenir matière à sketch ou à spectacle l'apaisait autant qu'elle l'exaspérait. Elle ne savait jamais vraiment si elle vivait quelque chose ou si elle était déjà en train de l'écrire. Oui. Et moi, là, j'ai pensé à tous les écrivains.
Ouais, mais ça, je pense que c'est pas quelque chose que je ressens moi du tout dans la vie. Donc après, j'écris pas de façon autobiographique, donc ça explique ceci explique peut-être cela. Mais je pense que oui, peut-être. J'imagine que quand on est stand-up, par contre, ça doit vraiment vous hanter, quoi. Est-ce qu'on que ça utilise, c'est drôle ouais. Je pense que tout est. Je pense que ça rend fou un peu. Ça doit rendre un peu fou. Et moi, je suis pas du tout dans ce mode-là. Si je vis un truc, après, souvent, je vis des trucs drôles ou ridicules, et ça me vient pas à l'esprit que ça fera partie d'un roman. Un roman, c'est trop compliqué.
Est-il vrai que les rats rient uniquement quand ils connaissent la personne qui les chatouille ?
Écoutez, ça, d'après Wikipédia, oui.
Parce que vous le mettez dans le roman, j'étais impressionnée.
Oui, ça, c'est, par exemple, ça, c'est une des seules recherches que j'ai faites pour le livre.
Est-ce que les hologrammes de déportés existent et sont-ils fabriqués par la Fondation Spielberg ?
Absolument, oui.
Ça, c'est fabuleux. Ouais. Vous pouvez en dire un mot ?
Alors, j'ai lu, c'était un article dans le New Yorker, il y a déjà, je pense, une dizaine d'années, où c'était un article qui suivait une survivante de l'Holocauste, et elle faisait faire son hologramme, était en train d'être créé, donc elle passait des heures à se faire interviewer par des historiens, par des enfants, par des ados, et donc elle répondait à toutes les questions qu'on pourrait lui poser sur son expérience, pas juste de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi depuis, après, voilà, ce qui s'était passé pour elle après dans sa vie. Et ouais, et donc l'objectif, c'est ensuite d'avoir ces hologrammes dans des musées. Je sais pas ce qu'il en est maintenant, parce que encore une fois, ça fait peut-être 10 ans que j'ai lu ça, mais je crois qu'effectivement, il y a un musée à Seattle et un musée à New York où on peut en voir un ou deux hologrammes comme ça, et leur poser des questions, mais j'ai pas fait encore.
Vous inventez la notion de suicide temporaire dans ce livre. Oui. C'est une merveilleuse idée.
Oui.
Vous y pensez souvent ?
Ah bah, j'y pense. Bah, malheureusement, c'est pas possible. Mais oui, si. Enfin, je sais pas si c'est du suicide temporaire ou de mettre des jours complètement sur pause. Oui, voilà, on met pause là parce que ça m'intéresse pas aujourd'hui.
Mais on risque de jamais mettre sur play ensuite.
Ça, c'est un autre. Ça, c'est mon prochain roman. Spoiler.
Alors, est-ce que vous auriez des romans justement à nous conseiller ? Dans votre livre, on parle de certains romans. On parle par exemple de L'année de la pensée magique de John Didion. Mm-hmm. Et l'un des professeurs se dit que seul quelqu'un qui a récemment perdu quelqu'un peut supporter sa lecture.
Oui. Je sais pas si c'est vrai, mais moi il se trouve quand je l'ai lu, c'était juste après la mort de mon père, donc je me disais que c'était très... voilà, que c'était écrit pour moi, etc. Mais que c'est tellement plein de détails sur ce qui se passe.
Mari qui meurt pendant que sa fille est hospitalisée.
Et ça rend... Voilà, je pense que c'est des détails qui peuvent rendre fous des gens qui ne sont pas du tout en train de traverser quelque chose comme ça. Mais des romans, est-ce que j'ai lu des... oui, c'est terrible parce que je lis
mais même petite, ça peut être Stendhal, ça peut être Steinbeck. Je sais que vous les aimez bien.
Non, mais je pense toujours qu'à des trucs que tout le monde a déjà lus.
C'est pas grave, vous savez, vous seriez surprise. Il y a toujours un livre qu'on est persuadé d'avoir lu parce qu'on en parle beaucoup, puis on l'a pas lu.
Non, mais c'est des trucs... moi, c'est des trucs américains, quoi. Quand j'étais ado, je lisais beaucoup de trucs américains. Je lisais Don DeLillo, je lisais Philip Roth, comme j'ai dit encore. J'ai l'impression que les gens qui n'ont pas besoin de pub du tout, quoi. Mais ouais, Don DeLillo, Bruit de fond, White Noise, j'adore ce livre. J'ai pas adoré l'adaptation cinéma, donc je conseille à tout le monde de lire le livre. Nabokov, Ada ou L'Ardeur, ça reste un de mes livres préférés, mais il faudrait que je le relise parce que là, pour le coup, ça fait bien 10 ans que je l'ai pas lu. Ça va ?
Bah oui, c'est parfait. Merci beaucoup Camille Bordas.
Merci.
Votre roman Des Inconnus à qui parler est paru en français aux éditions de Noël et en anglais pour les anglophones sous le titre The Material chez Random House, avec un bon accent français. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Fanny Leroy et Louise Morfouas, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin, à la technique Fabrice Desmaz.